Moi, je savais.
Mais non, il y a une vie après normale.
Chers auditeurs, bonjour. Je vous adresse tout d'abord mes meilleurs vœux pour l'année 2012 et vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Pour commencer cette nouvelle année sous les meilleurs auspices, Il y a une vie après normale revient sur Transistor. Et je reçois aujourd'hui, donc, pour commencer, Yannick Blanc, directeur adjoint du cabinet de Monsieur Huchon, président du conseil régional d'Île-de-France. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors commençons tout de suite cet entretien. Pouvez-nous nous détailler les grandes lignes de votre parcours? Donc, vous êtes issu de la promo 1975 de l'ENS Saint-Cloud.
Oui, eh bien, lorsque j'étais normalien, je me suis initié à la recherche en sciences sociales. Et en sortant de l'école, en 1979, j'ai commencé à faire un certain nombre de travaux, d'études en sciences sociales. Il faut se souvenir que les années 70 n'étaient pas des années très glorieuses pour l'enseignement supérieur et la recherche, et même pour les écoles normales supérieures, puisque lorsque j'étais en quatrième année à l'école, il y avait moins de postes à l'agrégation de philosophie, puisque j'étais élève en philo, il y avait moins de postes à l'agrég de philo qu'il n'y avait d'élèves philosophes dans l'ensemble des écoles normales supérieures. Donc les débouchés pour les normaliens étaient vraiment extrêmement difficiles. Rien n'était organisé pour préparer, organiser des filières de recherche, mais moi c'était la recherche qui m'intéressait à cette époque-là. Et donc avec quelques amis, on s'est organisé pour faire un travail de recherche en sciences sociales. Et puis ce travail m'a amené, cette activité m'a amené à me rapprocher du ministère de l'Environnement et du cadre de vie, c'est-à-dire c'était déjà à l'époque un grand ministère qui regroupait l'environnement, les transports, l'équipement, l'habitat, etc., pour lequel nous avons fait quelques contrats de recherche. Et puis j'ai été intégré à cette administration comme contractuel pour y animer une équipe de prospective. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenu conseiller technique au cabinet du ministre de l'Environnement. J'ai ensuite continué quelques années dans cette administration. Et puis, en 1989, j'ai décidé de passer le concours de l'ENA. J'ai ensuite poursuivi ma carrière au ministère de l'Intérieur.
D'accord. Et donc, aujourd'hui, comment vous êtes passé du ministère de l'Intérieur? C'est un autre choix de vie, une autre...
C'est pas les postes de collectivité territoriale sont des postes de, comment dirais-je, normaux, habituels dans une carrière de haut fonctionnaire, notamment au ministère de l'Intérieur, puisque c'est un ministère où l'activité des collectivités locales fait partie de son domaine de compétence. Donc, c'est une évolution de carrière tout à fait habituelle.
D'accord. Et donc, quand même, vous avez enseigné la philosophie pendant quelques années et vous choisissez de faire l'ENA. Alors, pourquoi exactement ce changement total de carrière et qu'est-ce que vous attendiez de l'ENA et que vous ne trouviez pas, par exemple, dans l'enseignement de philosophie?
Alors, d'abord, j'ai très peu enseigné puisque j'ai quand même plutôt fait des activités de recherche que des activités d'enseignement. J'ai enseigné dans un lycée parisien et... au lycée Georges Brassens de Courcouronne, si je me souviens bien, pendant quelques mois, mais pas plus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'activité de recherche contractuelle, puis de pilotage de recherche dans une administration, m'a progressivement amené vers des fonctions plus opérationnelles, des fonctions de décision et pas seulement des fonctions d'études. J'ai toujours été passionné par les affaires publiques, par la politique, par la philosophie politique. J'avais commencé une thèse sur le concept de régulation, donc le cœur de mes préoccupations était précisément à l'articulation entre les phénomènes sociaux, les phénomènes économiques et puis la décision politique et institutionnelle. À un moment donné, les perspectives de carrière étaient manifestement plus attractives du côté de l'administration que du côté de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Et le fait d'avoir choisi l'ENA, dans quelle situation ça vous a mis par rapport, par exemple, à vos collègues, à vos amis dont vous parliez tout à l'heure, qui eux ont peut-être continué la recherche? Est-ce que c'est des carrières qui semblent s'opposer totalement
Oui, parmi ces amis de l'école, ils ont eu des carrières professionnelles très diverses. Certains sont devenus enseignants, d'autres chercheurs, d'autres travaillent dans des entreprises privées, certains s'occupent de formation. La qualité de normalien prépare, je crois, aux métiers les plus variés. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à cette époque-là, il y avait vraiment très peu de dispositifs d'accompagnement et d'aide des élèves pour préparer leur vie professionnelle. Donc chacun s'est débrouillé comme il a pu. Pour ma part, pendant toute ma vie professionnelle, ma qualité de normalien a été essentiellement un atout et dans une petite mesure un handicap. Je vais commencer par le handicap parce que j'ai choisi à la sortie de l'ENA de travailler au ministère de l'Intérieur. Et dans ce ministère qui est très très dominé par les fonctions opérationnelles, notamment dans le corps préfectoral, la qualité d'intellectuel qu'on vous colle lorsque vous êtes normalien vous marque comme un être un peu marginal. Alors, il y a des moments où ça m'a rendu beaucoup de service. Lorsque j'étais sous-directeur des affaires politiques du ministère et que j'ai eu à gérer la refonte totale du système des études électorales, lorsque le ministre de l'Intérieur de l'époque, Dominique de Villepin, a décidé de retirer définitivement aux renseignements généraux la tâche de faire les prévisions électorales, eh bien, ma familiarité avec le monde des sciences sociales, avec le monde académique, m'a beaucoup aidé pour inventer un dispositif moins policier et plus intellectuel de prévision électorale. Mais quand on vous colle cette étiquette dans ce genre d'administration, c'est quand même plutôt pour vous désigner comme un être à part. Mais ça, c'est quand même anecdotique. Sur le fond, je crois que la formation intellectuelle quand on est normalien, dans beaucoup de métiers, vous donne des atouts dont on s'aperçoit aujourd'hui qui sont extrêmement importants. La maîtrise de la langue, la maîtrise de l'expression, la capacité à raisonner par concept, la capacité à avoir par rapport aux enjeux de société, aux problèmes qu'on a à traiter, certaines distances critiques, ce sont des atouts extrêmement forts pour exercer des responsabilités.
Alors, donc vous parliez justement de votre passage au ministère de l'Intérieur. Vous êtes connu, et peut-être que certains de nos auditeurs vous connaissent pour ça, pour avoir été en 2008 démis de la fonction de directeur de la police générale à la préfecture de police de Paris. Et je crois ne pas me tromper en disant que c'est moins le changement de poste qui est assez courant pour un haut fonctionnaire que, si on peut dire, la violence avec laquelle cela a été fait, qui a provoqué un réel intérêt des médias en 2008. Avant de rentrer dans les détails, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs en quoi consistait votre fonction de directeur de la police générale ?
Alors, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, la direction de la police générale n'est pas une direction de police, mais une direction administrative de la préfecture de police. Il faut entendre là le mot « police » dans son sens ancien d'application du droit. Cette direction regroupe pour les Parisiens l'ensemble des fonctions administratives de délivrance de papier. Donc c'est la direction dans laquelle on délivre les cartes d'identité, les passeports, les permis de conduire, les cartes grises, les permis de chasser, les autorisations diverses et variées, et également, puisque c'est pratiquement la moitié de son activité, les titres de séjour pour les étrangers et les décrets. C'est là qu'on prépare également les naturalisations. Voilà la nature de cette direction, donc essentiellement tournée vers l'accueil du public et vers l'ensemble des procédures d'établissement de l'identité et de vérification et de gestion de l'authenticité des documents d'identité.
Alors, pour revenir un petit peu sur le contexte pour nos auditeurs, tout a commencé pour vous en 2006, puisque vous réalisez une interview qui est publiée à la Une du Monde, donc Le Monde daté du 7 juillet 2006, dans laquelle vous dites que Sarkozy, ministre de l'Intérieur, s'apprête à régulariser des milliers de sans-papiers suite à la mise en place d'une nouvelle circulaire qui concernait les parents d'enfants scolarisés en France, donc les parents sans-papiers. Le problème est donc que l'annonce que vous faites survient à un moment où le ministère de l'Intérieur faisait plutôt grand cas des chiffres de reconduite à la frontière. Et donc la polémique enfle au cours de l'été. Mais pourtant, ce n'est que 18 mois plus tard, Sarkozy étant devenu président, que vous êtes remercié. Alors, comment vous définiriez-vous à la suite de cette affaire, si on peut dire ? Est-ce que pour vous, vous êtes un sans-papieriste bâillonné ou alors simplement un haut fonctionnaire qui a dû gérer à un moment donné les incohérences de la politique ?
Je ne dirais pas les choses comme ça. D'abord, en 2006, si je me suis exprimé dans les médias, c'était à la demande du cabinet du ministre, puisque au moment où cette circulaire a été publiée, au mois de juin, la controverse enflait et un certain nombre d'élus politiques de gauche avaient relayé une espèce de rumeur qui voulait que la préfecture de police allait arrêter les enfants à la sortie des écoles. Les uns et les autres n'avaient pas hésité à évoquer les heures les plus noires de notre histoire. Il y avait des rumeurs qui voulaient que la préfecture de police avait réquisitionné des bus pour ramasser les gosses. Enfin, on était vraiment dans le fantasme. Et le gouvernement, à ce moment-là, essayant de sortir de cette polémique assez pénible, m'avait demandé d'expliquer, en compagnie d'Arnaud Klarsfeld, d'expliquer aux médias comment nous entendions appliquer cette circulaire. J'ai donc passé toute une semaine à m'exprimer dans les médias, y compris à accueillir des caméras de télévision dans les services, auprès des guichets de la préfecture de police, pour montrer comment nous recevions les familles sans papier qui venaient demander leur régularisation et le travail que nous étions en train de faire. Donc pour désamorcer cette espèce de rumeur et montrer que l'administration n'était pas en train de faire des rafles d'enfants dans les écoles, mais qu'elle essayait de gérer un problème difficile. Et puis, effectivement, cette série d'interventions médiatiques s'est terminée par une interview dans Le Monde, où j'ai expliqué assez en détail ce qu'était le travail de l'administration. Et la dernière question qu'on m'a posée était « Mais combien est-ce qu'il va y avoir de régularisation ?» Et j'ai répondu que je n'ai pas donné un chiffre. J'ai dit que dans la mesure où on avait plus de 10 000 dossiers qui avaient été déposés, il y aurait très vraisemblablement plusieurs milliers de régularisés. Le résultat que ça a donné m'a étonné, mais la communication n'est pas une science exacte. Et nous étions alors en pleine Coupe du Monde de football, on en était au stade de la demi-finale, et j'étais convaincu après avoir donné l'interview qu'elle serait reléguée en page intérieure du journal et que les résultats de la demi-finale feraient la une. Mais ce n'est pas ce qu'a décidé la rédaction en chef du Monde, et donc elle a fait un gros titre sur plusieurs milliers de régularisations, alors que ce n'était vraiment pas le cœur de l'interview. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était déjà en campagne, a découvert ce titre le soir, alors qu'il entrait dans un meeting de ses partisans en province. Et donc, il a été passablement irrité par le phénomène. Cela étant, je l'ai eu au téléphone quelques jours plus tard. Et il avait eu le temps de lire l'interview. Il a, à ce moment-là, reconnu que je n'avais, pour ma part, rien à me reprocher dans les propos que j'avais tenus. Voilà, par la suite, la mise en œuvre de la politique à l'égard des étrangers est devenu un sujet de tension extrêmement forte, y compris au sein de l'administration. Et on a jugé à un moment donné que la réputation qui était la mienne, d'être un interlocuteur attentif et volontiers bienveillant avec les associations s'occuper des sans-papiers avec les collectifs, etc., n'était pas en adéquation avec la politique voulue par le gouvernement.
Et alors, qu'est-ce que donc vous tirez de cette période ? Est-ce que vous en avez tiré des conclusions par rapport à la haute fonction publique, par exemple ? Est-ce qu'on peut tout dire ? Est-ce qu'on doit tout dire ? Ou est-ce qu'à l'inverse, le haut fonctionnaire a forcément un droit de réserve et est forcément lié à ce que lui demande de faire un ministère?
C'est un sujet qui mériterait une réflexion un peu sérieuse, parce que l'obligation de réserve est une chose. L'obligation de réserve, c'est l'obligation pour un fonctionnaire de ne pas porter publiquement de jugement sur la politique du gouvernement. Bon, et tant que j'ai été en poste, je n'ai jamais failli à cette obligation de réserve. Il me paraît tout à fait normal. Mais les citoyens sont demandeurs de ce qu'on appelle de la transparence, c'est-à-dire ils veulent comprendre ce que sont les décisions que l'on prépare, que l'on prend et que l'on applique. Et le politique joue un rôle évidemment décisif, d'arbitrage, d'orientation dans l'élaboration des politiques publiques. Mais les hauts fonctionnaires, ils exercent des responsabilités, soit parce qu'ils sont les experts d'une question, soit parce qu'ils exercent des responsabilités dans la mise en œuvre des politiques. Et dans la mise en œuvre d'une politique, il se passe beaucoup de choses. C'est pas un phénomène linéaire de mettre en œuvre une politique publique. Il n'y a pas la loi, le règlement, la circulaire, et ensuite des gens qui appliquent aveuglément des choses qui seraient écrites dans les textes. Tout est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a de la réflexion, de la négociation, des marges de manœuvre à toutes les étapes de la décision publique. Et dans cette mesure même, il me paraît tout à fait légitime que les gens à qui on confie la responsabilité de mettre en œuvre les politiques puissent s'en expliquer. Et chaque fois que je me suis exprimé publiquement sur la politique des étrangers, sur l'immigration, je me suis toujours efforcé d'expliquer, de sortir de la simple controverse idéologique, de sortir des clichés, de sortir des idées toutes faites et d'expliquer l'épaisseur, la complexité des problèmes, parce que lorsqu'on a un poste de responsabilité comme celui que j'exerçais à la préfecture de police, on a une capacité de compréhension des problèmes qui est, à mon avis, utile à la qualité du débat public.
Donc, selon vous, c'est moins votre intervention en 2006 par l'interview du Monde que le fait que vous prêtiez une attention tous les jours, au quotidien, à des associations qui a conduit à votre changement de fonction.
Disons que cette affaire de l'interview du Monde m'avait donné une certaine réputation, une certaine image, et que plus les mois passaient, et plus cette image était décalée par rapport à ce que le gouvernement attendait des gens qui appliquent sa politique dans ce domaine.
Que faites-vous après cela, et comment peut-on rebondir après une telle expérience dans le milieu de la haute fonction publique ?
Eh bien, il se trouve qu'en 2007, le statut de la fonction publique avait été modifié pour permettre aux fonctionnaires de créer des entreprises. J'ai donc, constatant que l'administration ne me proposerait pas de suite de carrière très intéressante, j'ai créé une entreprise de conseil dans le domaine des associations et du mécénat. Et donc je me suis livré à cette activité de consultant pendant 2 ans. Et j'ai accompagné des grandes et des petites associations, des fondations dans leurs projets. En 2008, la loi a créé un nouveau type d'organisme qu'on appelle les fonds de dotation, qui est une forme de fondation simplifiée, on peut dire. Et donc, une grande partie de mon activité pendant cette époque a été d'accompagner les gens qui avaient des projets de fonds de dotation, de monter leurs dossiers, d'écrire leurs statuts et de les aider à bâtir des projets. Ça a été une époque d'activité tout à fait passionnante. C'est un domaine dont j'étais devenu un expert dans ma vie administrative, puisque j'avais été chef du bureau des associations et fondations au ministère de l'Intérieur.
Et qu'est-ce qui vous fait revenir, donc 2 ans plus tard, ici, auprès du président du conseil régional ?
Eh bien, un ami qui était aussi un ami du directeur de cabinet du président du conseil régional me dit un jour, au détour d'un déjeuner, que ce directeur de cabinet, qui est un homme d'une trentaine d'années, cherchait à avoir auprès de lui quelqu'un de plus expérimenté, de plus âgé, connaissant bien l'administration de l'État. Et donc voilà, j'ai pris contact et nous avons fait affaire. J'ai fait la connaissance de Jean Peluchon. Nous avons très vite senti que nous avions des atomes crochus, et donc il m'a demandé de rejoindre son cabinet, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir.
Et alors, cette période donc, où vous faites du conseil pour les associations et pour les fondations, qu'est-ce qu'elle vous a apporté en termes de... Quelles étaient les nouvelles choses que vous pouviez découvrir après une carrière dans la fonction publique ?
Le monde des associations et des fondations est un monde d'une richesse à peu près inépuisable. Donc, je le connaissais déjà bien. J'y avais déjà une certaine réputation, ce qui m'a permis de démarrer mon activité très rapidement. Et donc, je n'ai pas été la surprise par ce que j'ai découvert. La principale nouveauté de cette activité, pour quelqu'un qui a déjà passé plusieurs dizaines d'années dans la fonction publique, c'est d'avoir à vendre ses services. Donc, prendre contact avec des clients, leur proposer des conseils, ça c'est pas très difficile, mais ensuite faire des devis, chiffrer la valeur des conseils que l'on donne et faire payer des factures, ça c'est une expérience tout à fait nouvelle. et au demeurant, extrêmement intéressant, parce que c'est une façon différente de voir les choses, c'était le monde du mécénat et des associations, donc c'était quand même pas le monde du business pur et dur.
Alors donc pour revenir sur le cœur de métier, votre cœur de métier, donc la fonction publique, hier vous étiez, comme on l'évoquait, directeur de la police générale à la préfecture de Paris. Aujourd'hui, vous êtes directeur adjoint du cabinet de M. Huchon. Quel rapport on entretient avec la politique quand on occupe des postes comme ceci ? Et est-ce qu'on y est préparé ? Est-ce que c'est un apprentissage assez long et toujours à refaire ?
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis toute ma vie intéressé à la chose publique et à la politique. Et dans ma carrière administrative, j'ai déjà occupé des postes très proches de la politique, puisque j'ai été membre de deux cabinets ministériels, celui d'Huguette Bouchardeau en 1984, celui de Jean-Pierre Chevènement en 1998. J'ai ensuite été sous-directeur des affaires politiques au ministère de l'Intérieur, où j'avais la responsabilité des élections, des associations et du bureau des cultes. Le métier de la liaison, de l'articulation entre l'expertise juridique, administrative et technique et la décision politique, c'est vraiment ce que je sais faire. Que ce soit dans un ministère, dans un cabinet ministériel ou ici dans une grande collectivité territoriale, le métier n'est pas fondamentalement différent. Ce que j'ai appris ici au Conseil régional d'Île-de-France, c'est à travailler au quotidien avec une assemblée de 209 membres, d'intégrer encore plus que dans l'appareil d'État la préparation d'un dossier, l'élaboration d'une décision et sa mise en œuvre à la délibération démocratique. Et ça, c'est une expérience qui est réellement passionnante. Je crois que les collectivités territoriales, parce que les élus sont quotidiennement en prise directe avec la population, avec ses problèmes, les collectivités territoriales ont une capacité d'initiative, d'adaptation, de réaction aux problèmes de la société qui est sensiblement plus grande que celle de l'administration de l'État. Et comme j'ai eu, dès le début de ma vie professionnelle, à m'intéresser, à m'occuper de sujets liés à la décentralisation, eh bien je trouve ici, au bout d'une trentaine d'années, je trouve ici à... réaliser une certaine cohérence de mon parcours professionnel et à vérifier très près du terrain que la démarche de décentralisation est une démarche qui correspond bien aux besoins de la société française.
Alors, justement, pour revenir donc un peu plus sur l'ensemble de votre carrière, est-ce qu'il y a un moment vraiment que vous avez préféré qui se détache par rapport aux autres, un projet qui vous a énormément tenu à cœur ou un moment vraiment que vous aimeriez raconter
C'est difficile à dire. À tous les moments de ma vie professionnelle, j'ai essayé de mettre en valeur les ressources que m'avait donné ma formation intellectuelle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, de manière un peu anecdotique. Chaque fois que j'ai pu, et je le fais encore aujourd'hui, j'ai été en rapport avec des chercheurs. J'ai essayé de rapprocher l'activité d'études, de recherche, de réflexion de l'activité de prise de décision. Et je persiste à penser que les chercheurs peuvent apporter à la décision publique des ressources extrêmement précieuses. Il y a des moments où ça se passe bien et des moments où ça se passe moins bien, parce que le dialogue entre le politique et entre le savant et le politique, comme disait Weber, n'est jamais un dialogue facile. J'ai un souvenir particulièrement précieux qui est celui de mon premier entretien avec Jean-Pierre Chevènement, car Jean-Pierre Chevènement est un homme qui est extrêmement cultivé et c'est un des rares hommes politiques que je connaisse à aimer et raisonner par concept. Et lors de ce premier entretien, nous avons pendant trois quarts d'heure parlé de Gramsci, de Braudel, de l'identité de la France, et seulement pendant les cinq dernières minutes de son cabinet, de mon engagement politique, etc. J'ai eu avec ce ministre des relations extrêmement riches, parce que il aime lorsque Il s'attaque à un dossier. Nous avons travaillé sur la décentralisation, sur la Corse, sur le développement local. Il aime mettre en perspective les problèmes très concrets qu'il faut gérer au jour le jour et l'approche conceptuelle des choses. Chaque fois que j'ai pu le faire, je l'ai fait et j'ai eu d'autres occasions de le faire dans ma vie professionnelle.
Et alors donc, justement, rétrospectivement, pour vous, ce que l'ENS vous a apporté comme qualité, comme compétence, justement, c'est cette attention au savoir, tout en étant quand même dans le politique et dans la vie, au plus près de la vie sociale, de la société.
Il y a l'attention au savoir, il y a plus fondamentalement ce que j'ai appris à l'école, c'est la liberté de penser. Et la liberté de penser, ça se construit. Dans la notion de liberté de penser, il y a la liberté, puis il y a la pensée. La pensée, c'est pas juste l'improvisation, c'est pas le free jazz. Hein. Une pensée, ça demande de la méthode, ça demande de la rigueur. Et exercer une liberté avec rigueur, c'est un exercice très difficile. C'est une sorte d'idéal. Je crois que beaucoup plus que dans les autres filières de formation, singulièrement beaucoup plus qu'à l'ENA, mais pour ce que je sais de Sciences Po ou des grandes écoles de commerce, je crois que le normalien est quelqu'un, et nos grands aînés nous l'ont montré, hein, qui est formé, armé pour exercer sa liberté de penser. Alors, dans une carrière administrative, dans une carrière d'entreprise, il y a des moments où l'exercice de la liberté de penser vous est reproché. Et donc, j'ai eu l'occasion de le vivre moi-même, mais je ne le regrette absolument pas. Parce que cette liberté de penser dans les moments critiques, que ce soit des moments d'élaboration de stratégie à long terme, de réflexion sur les problèmes structurels, sur les problèmes de long terme, ou que ce soit dans les moments de crise aiguë où au contraire il faut réagir, prendre des décisions en quelques minutes ou quelques heures, apprécier l'ensemble d'une situation, lorsque vous êtes dans une équipe et que vous gardez votre liberté de penser, que vous mettez cette liberté de penser au service du travail d'équipe, eh bien vous lui apportez quelque chose d'extrêmement précieux.
Puisqu'on parlait de l'ENS, quel serait votre meilleur souvenir que vous gardez donc, de votre passage à l'école ?
Est-ce que je peux vous en raconter deux ?
Vous pouvez, oui.
J'en ai un qui est un souvenir du concours. J'ai passé le concours deux fois, donc j'ai échoué la première fois, et puis j'ai doublé ma cagne. Quelques jours avant le début de l'écrit, je suis tombé malade, j'avais les oreillons. Et donc j'étais malade comme un chien au fond de mon lit. Et j'ai cru que je ne pourrais pas aller passer ce concours. Et puis, je me suis bourré de médicaments, de vitamine C, de que sais-je encore. Et donc, le matin de la première épreuve, c'était l'épreuve de français, si je me souviens bien, ma sœur m'a accompagné à la maison des examens d'Arcueil. Et donc, au petit matin, j'ai retrouvé là mes camarades. J'étais, comme on dit, complètement dans le cirage, voyant à peine clair. Et je croise un camarade de Cagne qui me serre la main et qui me dit « Oh, toi, on voit que tu fais ça en professionnel, t'as l'air complètement décontracté. » Et alors, effectivement, comme j'étais vraiment, comme j'avais plus rien à perdre, j'ai fait ma dissertation de français dans une espèce de totale inconscience. Et du coup, ça a été la meilleure copie du concours. Elle a été publiée au rapport du jury. Mon deuxième souvenir, c'est une soirée que j'ai organisée à l'école. Je connaissais bien le cinéaste René Alliot, puisque mes propres parents étaient cinéastes. Et René Alliot a réalisé en 1996 un film qui s'appelle « Moi, Pierre Rivière », d'après un livre écrit par Michel Foucault. Et nous avons organisé à l'école la projection du film et un débat avec René Alliot et Michel Foucault. Et je garde de cette soirée un souvenir ému et émerveillé, parce que ça a été un gros moment de liberté de penser, un débat de très haut niveau. Et les élèves qui étaient là, je pense, en tout cas m'en ont témoigné quelques années après, ont gardé de cette soirée le moment d'un moment de grande qualité. Et l'école Saint-Cloud en 1976, en termes de confort, de qualité d'accueil, de conditions de travail, c'était très 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 loin en dessous de ce que peut être l'école aujourd'hui à Lyon, ou même la rue d'Ulm. On était vraiment dans des conditions de travail précaires, on avait très très peu de moyens. Ça n'empêche que, normal, c'est un endroit où règne un esprit de convivialité et de respect intellectuel réciproque qui reste un souvenir pour moi extrêmement précieux et que je pense avoir consciemment ou inconsciemment essayé de reproduire plusieurs fois dans ma vie.
Eh bien, merci beaucoup donc, pour ce témoignage. L'entretien touche à sa fin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, je vous invite à écouter sur notre site la nouvelle émission de présidence, donc qui sort cette semaine en même temps qu'Il y a une vie après normale. Et ne ratez pas le prochain numéro de cette émission, qui sera donc consacré à Sophie Coutor. Rendez-vous vous est donné dans 15 jours. Bonne journée à tous.